Voilà, c'est l'heure précisément 18h, le journal de Mathieu Laurent.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Le régime iranien a réprimé dans le sang une révolte citoyenne dans ce journal. Les rares informations à notre disposition avec Diane Berger. À la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, reportage à Kaboul, dans un refuge pour femmes battues, un lieu tenu secret où s'est rendue notre correspondante Sonia Ghezali. Get Brexit Down ne fait canonner Boris Johnson. C'est l'une des recommandations du manifeste du Parti conservateur en vue des élections. Précision avec à Londres Marina Daras. Et puis la grève demain et la semaine prochaine à Radio France. Élément de contexte avec Éric Chavroux. Mais tout d'abord cette feuille de route, battre Trump et rebâtir l'Amérique, c'est celle de Michael Bloomberg, officiellement candidat à l'investiture démocrate depuis quelques heures. Washington, Gregory Phillips.
C'est la fin d'un faux suspense. Michael Bloomberg se lance donc dans cette course à l'investiture démocrate. L'ancien maire de New York pendant 12 ans et qui, avec une fortune estimée à plus de 50 milliards de dollars, est l'une des 10 personnes les plus riches au monde. À 77 ans, cet ancien républicain se présente dans ce message publié sur Internet comme le seul qui peut défaire Trump. « Je suis la solution », écrit-il. « Je suis prêt à me battre et à gagner ». Sa campagne débute demain sur toutes les télévisions américaines avec un investissement massif en publicité, 30 millions de dollars pour ses premiers spots. L'immense fortune de Bloomberg est évidemment un atout, mais l'homme aura du mal à séduire l'aile gauche du Parti démocrate. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, l'accusent déjà de vouloir acheter cette élection. Si néanmoins Bloomberg devait décrocher l'investiture du parti, la présidentielle de 2020 serait donc un match entre deux septuagénaires new-yorkais et milliardaire, bien que la fortune de Bloomberg soit 10 fois supérieure environ à celle de Donald Trump.
Les forces de sécurité irakiennes ouvrent le feu sur des manifestants, 9 morts à Bagdad, Nasiriya et Bassora. L'Iran, avec cette dernière déclaration en date d'un officiel de haut rang. L'Iran lance le contre-amiral Ali Fadawi, commandant chef adjoint des gardiens de la révolution. L'Iran punira sévèrement les mercenaires arrêtés en lien avec la contestation. Révolte citoyenne, à vrai dire, réprimée dans le sang. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Diane, de quelles informations disposons-nous ce soir ?
Eh bien, Internet est revenu depuis quelques jours et depuis le retour d'Internet, c'est surtout la confirmation de ce que beaucoup d'observateurs craignaient, une répression particulièrement violente et toujours difficile à quantifier. Dans son dernier bilan, Amnesty International compte plus de 115 morts liés à la répression, mais il ne s'agit que des cas que l'organisation a pu confirmer avec certitude. Or, on l'évoquait, à cause des restrictions de communication des derniers jours, le bilan réel pourrait être donc bien plus élevé, peut-être autour des 200 victimes. En effet, Internet a été coupé moins de 24 heures après le début du mouvement et même si depuis 4 jours il revient progressivement, il était encore loin d'être rétabli cet après-midi. Toujours difficile de l'utiliser, notamment sur les téléphones portables, c'est-à-dire les supports à partir desquels l'information pourrait arriver au plus vite sur les réseaux sociaux. Cette censure fait craindre le pire à Amnesty International, qui estime que les autorités cachent ce qui se passe. L'organisation a donc recoupé plusieurs témoignages, vérifié les quelques vidéos qui circulent et les scènes qu'elle décrit glacent le sang. Des tirs à balles réelles sur la foule, parfois depuis des toits d'immeubles ou d'hélicoptères, des manifestants molestés par les forces de l'ordre, des milliers de personnes arrêtées en moins de 10 jours, et plusieurs témoins racontent que les services de renseignement refusent de rendre les cadavres à leurs familles ou encore les forcent à les enterrer au plus vite, sans autopsie ni enquête.
Merci à vous Diane Berger. Selon Amnesty International et la fondation Thomson Reuters, l'Afghanistan est classé à la 2e place des pays les plus dangereux pour les femmes. À la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali, s'est rendue dans un refuge, un abri tenu secret créé par Marie Akrami, une militante des droits de l'homme, où des dizaines de femmes ont trouvé du réconfort et de l'horizon.
Rabia est chef de rang. Elle est originaire du nord de l'Afghanistan. Il y a quelques années, elle a trouvé refuge à Kaboul, fuyant un frère abusif et violent.
Il prenait tout ce qui lui passait sous la main et me le lançait dessus. Me gifler ou me donner des coups de pied ne lui suffisait pas. Il me lançait des couteaux, des morceaux de bois, des pierres, des verres.
Elle écarte une mèche sur sa joue et dévoile une cicatrice sous sa pommette.
Il m'avait lancé un bout de bois, je crois. Ma joue était ouverte. Je saignais beaucoup. Je me suis évanouie. Je suis restée inconsciente une partie de la journée.
Rabia était très jeune lorsque ses parents sont morts. Son frère aîné l'a empêchée d'aller à l'école et l'a brutalisée jusqu'à se débarrasser d'elle. Il la marie de force à un homme plus âgé dont elle deviendra la seconde épouse. L'homme ne subviendra jamais à ses besoins ni à ceux de leurs deux enfants.
Un jour, je suis allée au bazar acheter du poison. Je voulais que cette vie s'arrête. Alors je l'ai avalée.
Rabia est l'une des rares femmes à avoir osé braver les traditions en fuyant son foyer et en ayant eu recours à la loi.
Sonia Ghezali, correspondante de Radio France Internationale et de France Culture à Kaboul. La présidente bolivienne par intérim, Jeanine Agnès, a promulgué ce dimanche la loi convoquant de nouvelles élections présidentielles et législatives sans la participation de l'ex-président Evo Morales, des scrutins censés pacifier le pays sud-américain où des violences ont fait 32 morts en un mois. Le parti conservateur britannique, parti de Boris Johnson, vient d'officiellement publier son manifeste de campagne, une série de promesses électorales comprenant notamment un nouveau vote sur le Brexit avant Noël, ainsi qu'un triple blocage fiscal pour que les taux d'imposition sur le revenu, de l'assurance nationale et de la TVA restent stables sous un gouvernement conservateur. À Londres, les explications de Marina Daras.
On attendait de grandes promesses sur le Brexit. Boris Johnson a effectivement annoncé qu'un nouveau vote sur l'accord de retrait serait organisé avant Noël si son parti remporte une majorité de sièges. Get Brexit done, faire du Brexit une réalité, était le slogan martelé tout au long de son discours.
Get Brexit done and we can focus.
Faites du Brexit une réalité et nous pourrons enfin nous concentrer sur les priorités des Britanniques. Et aujourd'hui, dans ce manifeste, nous promettons 50 000 infirmières supplémentaires. Nous garantissons au peuple britannique que nous nous attaquerons au crime avec 20 000 policiers supplémentaires et que nous réglerons notre système d'immigration avec un système à points similaire au système australien. Nous investirons des millions de livres supplémentaires chaque semaine dans les sciences, les écoles, l'apprentissage et les infrastructures, tout en contrôlant nos dettes.
Mais le manifeste des conservateurs reste malgré tout assez modeste et sans grandes ambitions. Les annonces visant les taux d'imposition n'ont de but que de faire opposition aux dépenses promises par les travaillistes qui veulent renationaliser un nombre important de services. Conserver les acquis plutôt que de réformer semble être la nouvelle stratégie du Parti conservateur pour ces élections.
11 réfugiés secourus au large de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, une femme et 10 hommes dont un adolescent à bord d'une embarcation de fortune, tous en légère hypothermie. Nouveaux appels à la grève demain et dans la semaine à Radio France avec un comité social et économique central qui marque le début de l'information sur le plan de départ volontaire. Les syndicats sont particulièrement mobilisés contre le plan de départ de la direction qui prévoit 299 suppressions de postes sur un effectif total de 4600 équivalents temps plein environ d'ici 2022. Et contre aussi 60 millions d'euros d'économies demandées dont 20 par l'État et le reste par la direction. Un nouveau bras de fer débute au lendemain d'excellents résultats d'audience. Avec en toile de fond l'avenir dessiné par la tutelle de l'audiovisuel public, Éric Chaveau.
Les audiences montent, le moral baisse, lance un des très nombreux tracts qui tapissent les couloirs de la Maison Ronde. La Maison gronde face à un plan de départ volontaire inédit à Radio France depuis sa création en 1975, avec d'ici 2022 299 postes supprimés et la création en parallèle de 76 postes, dont 50 pour le numérique. Après une journée de grève particulièrement suivie le 18 juin dernier, les syndicats partent en ordre relativement dispersé. Tous sont unis dans leur appel de ce lundi, mais avec différentes stratégies pour la suite, jusqu'à un préavis reconductible tous les jours pour la CGT. Le plan de départ et les 60 millions d'euros d'économies annoncés par la direction sont les premiers motifs de la colère, avec selon l'intersyndicale une motivation économique toujours injustifiée. Hasard du calendrier, les résultats d'audience souvent records viennent de tomber, salués par la présidence de l'entreprise, et ils renforcent les interrogations de quantité de salariés désormais informés du détail par service des postes visés. La présidente de Radio France, Sybille Veil, a écrit et répondu aux employés. Elle dit préparer l'avenir pour rester la référence de service public dans un contexte financier très contraint et souligne que personne ne sera obligé de quitter l'entreprise s'il ne le souhaite pas. Les syndicats, qui rappellent que les congés et l'organisation du travail devraient aussi être touchés, y voient du toujours plus avec toujours moins, un tour de vis au-delà de la volonté assumée de l'État de réduire sa contribution à l'audiovisuel public avant la mise en place d'une nouvelle loi et de la holding publique France Média annoncée pour 2021.
Les inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud-est de la France ces derniers jours ont fait au moins 2 morts dans le Var, information livrée par la préfecture. Le temps de demain sera plus sec sur le sud-est et marqué par une nouvelle perturbation océanique. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto.